Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Voilà, il y a un débrief de la tech ce soir. On va partir dans l'espace, là, dans un instant, avec cette nouvelle constellation satellite dont on vous a déjà parlé. Hein. Vous pouvez regarder en replay, d'ailleurs. On a fait un débrief complet sur tout l'univers sur la space tech. C'était il y a quelques jours. Allez regarder sur le site de BFM Business. Vous allez retrouver tous ces sujets. On va parler du retrait de TikTok chez Apple et Google. Meta qui demande au gouvernement de bloquer le passage d'OpenAI en société à but lucratif. Elon Musk l'avait déjà demandé, ben Meta lui enclenche le pas. Et puis tiens, Elon Musk qui voudrait lancer un X-Mail, c'est un Gmail dans toutes ses applications X. Et oui, qu'est-ce qui se passe et pourquoi pas, c'est peut-être pas une mauvaise idée. On va en parler avec nos invités, je vous les présente ce soir, nos débriefeurs. Frédéric Krebs, bonsoir Frédéric.
Bonsoir Frédéric.
Qui est CMO chez Serena, ex-partner Newfound et ex-DG d'Allociné. Voilà, ça fait quelques années déjà, mais c'est bien de le rappeler pour voir que tu traînes tes guêtres dans cet écosystème depuis quelques années. Avec nous également Damien Douani. Bonsoir Damien.
Bonsoir Frédéric.
Alors si vous nous suivez en radio, vous ne pouvez pas voir ce magnifique pull de Noël. Il nous le ressort chaque année. Voilà, en tout cas c'est super. Écoute, c'est sympa.
De la pure laine de polyamide, vraiment de très bonne qualité. Effectivement, ce sera peut-être la dernière fois que je le mettrai. Hein.
Voilà, et puis en dessous, tu as un t-shirt d'une marque, d'une start-up américaine.
On commence par un G2O.
Voilà, un peu connu. Mais garde ton pull de Noël, ça nous fait très plaisir de t'avoir avec nous. Responsable de l'innovation de l'école narrative avec deux I. Et fondateur du cabinet Topos. Et puis avec nous, Tristan Nito, bonsoir.
Bonsoir.
Tristan, merci d'avoir pris l'habitude de revenir régulièrement.
Un plaisir.
En vélo électrique, hein, toujours.
Voilà. Musculaire, vélo.
Vélo même, musculaire même.
Ah oui, c'est ça. À force d'en faire, on se muscle et on n'a plus besoin de l'assistance.
Eh bien voilà, écoute, bienvenue parmi nous, directeur associé au commun numérique et anthropocène chez Octo Technologies. Et puis évidemment, tu as longtemps dirigé la fondation Mozilla. On a parlé d'ailleurs aussi en replay, si vous voulez aller voir, c'était super avec François l'autre soir où tu nous as. On fêtait les 30 ans de Mozilla et tu nous as raconté un peu les coulisses de cette naissance, de cette croissance et comment tu l'avais dirigé pendant toutes ces années. Alors messieurs, on va démarrer avec l'Union européenne qui lance, alors ça, on écrit Iris 2 mais on va le dire en anglais, c'est Iris Square, le projet de Starlink européen. On aura Eva Bernacke à 21h ici même sur ce plateau. Mais tiens, ce que je vous propose, c'est d'écouter ce sujet. C'est l'Europe qui a, est-ce qu'elle aurait trouvé une parade à Starlink, hein, donc avec le lancement de ce programme Square 2. Alors, il faut quand même se dire que la Commission européenne et les industriels ont signé un contrat de concession pour les 12 prochaines années, 300 satellites. À eux deux, ils vont mettre plus de 10 milliards d'euros sur la table. On écoute Jean-Baptiste Huette, ce reportage, et on revient juste après pour en débattre.
Une bouée de sauvetage pour l'Europe. C'est le rôle que doit jouer cette constellation de satellites. IRIS² doit permettre la continuité des communications, quelles que soient les situations. Andrius Kubilius est le nouveau commissaire européen en charge de la défense et de l'espace.
Les systèmes de communication sont menacés. Les câbles Internet ont été coupés dans la mer Baltique. La Russie brouille nos signaux de navigation. La première chose que la Russie a attaquée, une heure avant l'invasion à grande échelle, était un satellite de station exploité depuis l'Europe lors d'une cyberattaque très sophistiquée. Je jure que cela nous donnera la capacité de nous connecter, même dans un environnement hostile.
Les 300 satellites seront lancés par des fusées européennes déployées en orbite basse et en orbite moyenne entre 200 et 1000 km, une technique qui permet d'éviter l'envoi de milliers de satellites et qui surtout doit améliorer les performances. Coût de l'opération, 10,6 milliards d'euros. L'Union européenne financera 6 milliards. Le consortium SpaceRISE qui regroupe Eutelsat, SES et Hispasat, 4 milliards d'euros. Le premier lancement d'IRIS² est prévu pour 2029.
Alors messieurs, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? C'est bien d'avoir de la souveraineté, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Puisque ce que, par rapport aux technologies, par rapport à tous les satellites déjà opérationnels hein, sur cette partie communication Internet, on rappelle, hein, les satellites, il y en a de plusieurs sortes. Il y a communication Internet, il y a l'observation de la Terre, il y a la navigation, géolocalisation, enfin voilà, il y a différentes fonctions pour toutes ces constellations. Là, on part sur une constellation les communications Internet. Oui, il faut que l'Europe ait sa constellation, on l'a bien entendu, parce que souveraineté, parce que sécurité, parce que voilà, il faut qu'on ait aussi notre propre technologie. Mais Damien, quelle est ta réflexion?
Tu le disais, il y avait Copernicus, hein, c'est l'observation, oui. Tu as Galiléo qui est le GPS européen.
Et Copernicus, je me souviens à l'époque, qui récupérait les datas en bas, c'était Google qui avait monté tout un, parce que personne n'en voulait vraiment trop. Et c'était Google qui s'était jeté là-dessus, qui avait créé un village de start-up.
Elle appelle la souveraineté.
Ils avaient monté un village de start-up pour utiliser toutes les datas.
Et ça, c'est l'Europe, monsieur. On est généreux. Donc, moi, je pense que c'est une très bonne idée. Je pense que le point de départ, ça a été l'invasion de l'Ukraine. Ouais. On s'est rendu compte que finalement, c'était Starlink qui leur avait fourni, on va dire, la connectivité jusqu'à ce que Elon Musk se dise, je coupe, etc. Ce qui pose des vraies questions géopolitiques et géostratégiques. Et c'est Thierry Breton, quand même, parce que ce cher Thierry Breton, qui est totalement, à chaque fois, on va dire, conspué après son départ.
Revenir.
Et qui a lancé, justement. Et qui avait lancé
entre deux Marocains ministres dans les quelques jours qui viennent.
Qui avait lancé sous son mandat européen cette idée de constellation. Je trouve pas ça idiot. Mm-hmm. Après avoir, d'un point de vue technologique, puisqu'il y aura beaucoup moins de satellites que les autres concurrents directs, même Kuiper de chez Amazon. Dans tous les cas de figure, je pense que c'était nécessaire de la part des Européens d'avoir cet outil-là. Est-ce que c'est trop tard? Je pense que mieux vaut tard que jamais.
Oui, parce qu'il y a des projets chinois, tu as parlé de Kuiper, alors Starlink, il y a Kuiper qui arrive d'Amazon, mais qui n'est pas encore lancé, faut bien le dire. Les récents projets chinois aussi qui veulent investir tout ça, Frédéric.
Oui, mais justement, on ne parle pas d'un projet de la même échelle, malheureusement, que Starlink, malheureusement que les Chinois, ils ont même deux projets, Guadang. Oui. Et Quanfen, 1000 voiles. Là, on parle, nous, en Europe, de 300 satellites.
Oui, eux, ils parlent de 15 000.
Eux, ils en parlent de 15 000.
Et Starlink, c'est...
Starlink, ils prévoient même d'en faire 30 000 à horizon 10 ans. Et aujourd'hui, ils sont à 6 000 satellites, mais c'est quand même déjà 6 000 satellites. Mm-hmm.
Opérationnels.
Il ne faut pas oublier aussi une autre chose, c'est qu'on parle souvent d'Elon Musk ici, sur ce plateau, mais c'est que Elon Musk, grâce à SpaceX et grâce à Starlink, il a tout intégré la chaîne. Parce que là, les Nord que nous, on fait par bout. Donc, il y a un bout qui est fait donc là par ce projet IRIS², et puis à l'autre bout avec les lanceurs Arianespace. Donc, tout ça fait que est-ce que la réponse sera suffisante de la part de l'Union européenne? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut bien commencer quelque part et c'est bien de le faire.
Et puis 10 milliards, c'est déjà pas mal. Après, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est quand je regarde le mécano industriel. Parce que donc, il y a Eutelsat qui est le chef de file de tout ça, il y a Hispasat, il y a SES, il y a Orange, il y a l'allemand OHB, il y a l'italien Telespazio, il y a Thales, Airbus. Les Allemands, au début, ils voulaient pas y aller. Finalement, ils y vont parce qu'ils se sont rendus compte que c'était important. Tu connais bien un peu toutes ces structures européennes, Tristan. Oui, il faut que tout le monde avance. Il faut qu'il y ait un moment, il y ait une seule voix pour tous ces partenaires.
Ouais, mais je pense qu'ils sont contents de voir l'argent arriver parce que c'était quand même un moment difficile pour eux. Donc
on parlait que de 2 milliards au départ, puis maintenant on voit bien 10 milliards.
On a ripé, on est à 10, 1,6 pour l'instant. Alors c'est fait comme le PR. Ça va finir beaucoup plus que ça. Donc dans une certaine mesure, moi je suis assez content pour l'industrie. Bon, je vais faire mon chagrin de service parce que vous êtes tous les deux, je me fais l'avocat du diable, mais ça fait beaucoup de satellites quand même. Enfin, si déjà ils en mettent 15 000 de plus. Plus, ils ont un truc qui a explosé, qui a fait 300 déchets.
On est en basse orbite, là, il faut le rappeler.
C'est monstrueux. Enfin, on commence à avoir l'espace qui est comme le périphérique parisien, quoi. C'est-à-dire, super bouché. Alors, c'est nul pour les observations des astronomes amateurs. Bon, alors, si on n'est pas astronome amateur, on peut peut-être en avoir rien à cirer. Mais c'est aussi très gênant pour les télescopes qui sont à terre et qui observent les étoiles, etc.
Et puis les déchets, parce que ce n'est pas des satellites qui sont là pour 30 000 millions d'années.
Et puis ça pollue en fait parce que ça se pulvérise dans l'atmosphère. Et on est dans la surenchère, on n'a pas l'air de se poser trop de questions. C'est-à-dire il faut y aller parce que les Chinois y vont, parce que les Américains y vont. Oui. Et moi, finalement, je suis assez content que ça ne soit pas une méga constellation à la Elon Musk. Parce que le problème des satellites d'Elon Musk, c'est qu'ils sont jetables. En fait, c'est-à-dire qu'ils tournent, ils tournent, puis ils ne tournent plus, ils retombent, il faut relancer. Enfin, et c'est monstrueux. Vous savez le problème, il y a des limites planétaires. On a des problèmes d'énergie, on a des problèmes de pollution, des problèmes de gaz à effet de serre. Et qu'est-ce qu'on fait? On lance des fusées par milliers. Je me demande si c'est vraiment la préoccupation
la plus importante. Pour les communications Internet, il y a six constellations, Starlink, OneWeb, Kuiper, enfin, qui arrivent. OneWeb, Kuiper, donc IRIS², Telesat et les Chinois qui arrivent, même un septième, puisque les Chinois, ils sont deux. Il y a les constellations sont pour l'observation de la Terre, mais ils sont 1, 2, 3, 4, Planet Labs, Ice Eye, Sentinel, Black Sky, Constellation pour la navigation, la géolocalisation, Iridium, Beidou, le chinois, Orbcom, enfin voilà, il commence à y voir, c'est vrai.
Oui, et ça, à chaque fois, c'est des constellations de centaines, voire de milliers.
Alors après, ils sont à différentes orbites, etc., mais ça fait, c'est vrai, le côté des déchets. On a d'ailleurs souvent des startups qui sont venues ici, on en a deux au moins en France qui travaillent sur le repérage de ces déchets, et puis voir même comment on les rattrape. Oui, c'est un sujet. Maintenant, moi, je trouve que l'importance quand même de la souveraineté, c'est crucial, non ?
Ce qui est intéressant, parce que tu parles de souveraineté, c'est le plan commercial de Riskware. Et quand tu regardes ce qu'ils annoncent, la cible est clairement B2B, on va dire. Mm-hmm. Parce qu'en gros, ils ciblent des pays comme le Royaume-Uni, ils annoncent, Royaume-Uni, Norvège, Australie, pays asiatiques, dont le Japon et la Corée du Sud, et certains pays africains. Donc c'est assez intéressant de voir qu'on est dans une constellation qui est proche, on va dire, de l'Europe, ou de pays qui veulent avoir la main sur leur souveraineté, ou on va dire sont peut-être sous contrôle, on va dire. Une proximité américaine, mais ils aimeraient bien quand même avoir un tout petit peu de marge de manœuvre, je pense à la Corée du Sud. Donc c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont cibler, et l'Europe a une fenêtre là-dessus, je pense.
Ah, oui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, hein, parce que le jour où tu t'embrouilles avec les Américains, et que tu dépendais d'eux, enfin, on peut parler de l'OTAN par exemple, on voit bien à quel point ça peut être douloureux. Quoi.
Frédéric, un dernier mot là-dessus ? Je vous rappelle, on aura Eva Berneke à 21h ici même sur ce plateau, qui est la directrice générale de Telsat.
Moi ce que je retiens, c'est vraiment l'évolution qui est quand même positive, en tout cas sur le spatial en Europe. On l'a vu encore l'an dernier avec la fusion de Telsat et de OneWeb. On est obligé de créer en fait des sociétés plus solides, des projets plus importants pour pouvoir exister, en tout cas dans ce domaine-là. Sinon, on va continuer à être des nains et ce serait quand même dommage quand même pour l'Europe.
Allez, sujet suivant, on va reparler de TikTok. Alors TikTok aux États-Unis, mais pourquoi pas un jour cette sanction ou cette décision pourrait arriver en Europe. Donc Apple et Google pourraient être sommés de se préparer à retirer TikTok de leur store. Donc ça pose beaucoup de questions parce qu'évidemment, il y a des créateurs de contenu qui vivent des revenus qui de TikTok, les influenceurs, il y a des utilisateurs qui se sont habitués aussi X raisons à ces réseaux. Il y a quand même derrière, il y a des géants, ByteDance, qui a quand même des revenus derrière tout ça. Il peut y avoir un impact technologique. Est-ce que le fait que TikTok s'en aille, est-ce que Google et Apple, ça les dérange pas un peu? Parce que ça voudrait dire que les gens iraient chercher peut-être des solutions alternatives. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Qui démarre? Damien.
Allez, je le tente. Alors, je vais pas statuer sur le fait de TikTok c'est bien ou mal.
On pourrait dire
c'est une bonne nouvelle, sortons champagne. On va regarder, je pense, plus la question quelque part qui se joue aujourd'hui sur TikTok. Déjà, ce que je trouve intéressant et ironique, c'est le fait de se dire que le DSA permettant en Europe aujourd'hui d'avoir des magasins alternatifs, notamment sur iOS, on pourrait imaginer que TikTok dise tiens, l'Europe va être une bouée de sauvetage pour moi, parce que même si je suis banni des États-Unis, je pourrais continuer à exister en Europe. Et sachant que j'ai regardé les chiffres récents, l'Europe et les États-Unis, c'est vraiment quasiment kiff-kiff aujourd'hui en termes d'utilisateurs. Donc c'est assez intéressant de se dire que l'Europe n'est pas un marché de niche pour TikTok et ByteDance. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aussi le revirement qu'il y a eu de Trump, entre Trump 1 qui était farouchement contre TikTok, et Trump 2 qui aujourd'hui dit que c'est pas si mal.
Il l'utilise lui-même.
Voilà.
Oui, parce qu'il voulait à l'époque, il voulait même l'arrêter, il voulait que la partie américaine soit reprise par un Microsoft, par un Oracle. Bon, voilà, ça s'était pas fait.
Exactement. Alors après, il y a la question qui est TikTok pourrait continuer à exister aux États-Unis s'il est vendu. Mm-hmm. Donc la question, vendu à qui, à quoi, comment, de quelle manière, est-ce qu'il y a une manip qui pourrait être faite pour avoir, je ne sais pas, une société qui est co-managée, pourquoi pas, par Biden, c'est un Microsoft, c'est un Google ou autre.
Est-ce que Zuckerberg apprécierait ça, lui qui était à Mar-a-Lago la semaine dernière à
rencontrer
Donald Trump?
Et puis derrière ça, il y a quand même la question de fond qu'il faut se poser, c'est qu'il y a une concurrence réelle de cet acteur aujourd'hui qui n'est pas américain, sur un marché qui était quand même 100% américain, celui des réseaux sociaux. Donc,
parlait beaucoup des WeChat, des Baidu, enfin de tout. C'est le premier qui a franchi les frontières et qui se soit développé de façon aussi importante.
Justement, Frédéric, c'est intéressant parce que qu'est-ce qui se joue là en fait à travers cette décision de justice, c'est une décision de justice, puisqu'on parle du 19 janvier, c'est la date limite qui a été imposée. C'est que si Biden, en tout cas TikTok, est interdit, ça veut dire que potentiellement il y a d'autres services d'origine chinoise qui pourraient être interdits. On parle de WeChat, on parle de Temu, on parle même de CapCut. Hein, CapCut appartient.
Parce que là, on va dire que la diaspora chinoise utilise beaucoup ces outils-là quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont à l'étranger.
Alors oui, alors il y a ça parce que ça permet aussi d'amorcer la pompe. Il faut pas oublier quand même que TikTok aux US, c'est quand même 170 millions d'utilisateurs.
Oui.
Ce qui est quand même pas rien. Alors je me fais pas de soucis. Imaginons, faisons un peu de fiction, mais imaginons que TikTok soit interdit. Je me fais pas de soucis pour que la nature technologique a horreur du vide. Il y aura toujours des MeToo qui vont arriver, des concurrents qui vont arriver très très vite. YouTube Shorts va arriver tout de suite sur la place. Je pense que Meta a déjà quelque chose. Instagram Reels existe déjà. Il faut pas oublier un autre truc aussi, c'est que c'est pas la première fois que TikTok est interdit. TikTok a été interdit notamment en Inde il y a quelques années, il y a deux trois ans. Et en fait très très vite. Des acteurs locaux se sont imposés et ont eu quasiment la même audience. C'est-à-dire que, quelque part, la barrière à l'entrée de TikTok, elle n'est pas si élevée que ça.
Après, ce qu'évoque Donald Trump, ce qu'évoquent les États-Unis, c'est évidemment le risque des données qui seraient utilisées par les services chinois. Enfin, voilà,
C'est vrai que les services américains.
Je me demandais si la collecte de données sur TikTok était pas la même. Enfin, les collectes de données sur Facebook et Instagram, à part que ça va peut-être pas en Chine, ça va ailleurs. Tristan.
Alors, moi, ce qui me chagrine un peu, c'est que, ou plutôt peut-être que ça me rassure, j'en sais rien, je suis pas du tout fan de TikTok, surtout que les Chinois en font une version chinoise
plus éducative,
et une version occidentale qui est très très addictive, donc ça me chagrine. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que cette potentielle interdiction démontre l'emprise des App Store sur la disponibilité de l'information et des applications vis-à-vis des utilisateurs. Avant, et encore aujourd'hui, mais avant l'avènement vraiment des App Store et du mobile, il y avait le web. Et le web, c'était formidable parce qu'on n'avait pas besoin de demander l'autorisation pour innover, pour inventer des trucs. Il suffisait d'acheter un nom de domaine à 15 euros et hop, on faisait un site web à la maison sur un PC et on pouvait commencer à faire une start-up. Là, on commence à se retrouver dans cette nouvelle situation où il faut demander l'autorisation aux App Store à lesquels peuvent vous la retirer. Pas forcément volontairement, on sait bien que c'est pas Apple et Google qui décident de ça, c'est l'État américain. La justice américaine, mais néanmoins ça pose un problème de contrôle de l'information, de contrôle à l'accès aux applications, et je pense que c'est un peu une mise en garde qu'il faut garder dans un coin de l'esprit.
Mais justement, c'est intéressant de voir qu'en Europe, le fait d'avoir poussé Apple à avoir un magasin alternatif, qui n'est pas super rempli aujourd'hui, mais il existe, il a le mérite d'exister, c'est une fenêtre justement pour essayer de se battre contre ça. Et petite chose intéressante, là j'ai retrouvé le Tristan de l'époque de Mozilla.
C'est que j'ai pas changé.
T'as pas changé dans le fond. Ce qui est quand même intéressant à voir, c'est qu'au lancement du premier iPhone, tout premier iPhone, qui était verrouillé, dont Steve Jobs ne voulait pas ouvrir, il voulait pas d'apps, il a dit on fera des web apps. Donc en gros, vous adapterez vos sites mobiles et ça marchera très bien. C'était pas forcément une mauvaise idée finalement. Et puis l'idée, la construction du App Store a tellement été une bonne idée pour eux que bon.
Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire Biden? Est-ce qu'il pourrait envisager une séparation, une vente de TikTok? Est-ce qu'il pourrait modifier leurs algorithmes? Parce que comment il pourrait s'assurer que TikTok continue avec eux? Ce serait modifier leurs algorithmes ou
faire de la transparence vis-à-vis des données récoltées ou ce genre de choses. Je sais pas. Moi, j'irai voir le DOJ et je commencerai à montrer ma bonne volonté sur ces sujets-là.
Alors ils ont déjà été interrogés par une commission d'enquête spécifique il y a un peu plus d'un an, et ils ont déjà a priori donné toutes les certifications possibles, mais après on n'est jamais à l'abri d'une backdoor, on sait comment ça marche. Moi je pense très sincèrement qu'ils vont porter ça quasiment au niveau de la Cour suprême. Ça sera la Cour suprême qui va décider, parce qu'ils veulent en faire un fer de lance idéologique quelque part, parce que s'ils arrivent en fait à faire passer, continuer en fait leur activité à travers la Cour suprême. Là, c'est...
Oui, et par contre, s'ils se font bloquer, c'est vrai qu'il y a d'autres pays qui pourraient emboîter le pas.
Exactement.
Et puis, sous réserve, alors, comme le disait Tristan tout à l'heure, ou toi aussi, Damien, il ne s'agit pas de juger si TikTok est bien ou pas, mais on sait que certains pays, notamment en France, les autorités ne voient pas d'un très bon œil ce TikTok, au-delà de l'aspect chinois et tout ça, c'est dans l'usage, un peu l'abêtissement des jeunes autour de ça, donc je dirais pourquoi pas allez, ça peut bien nous servir.
Oui, si ce n'est que c'est un peu facile, je trouve, de prendre TikTok comme le seul épouvantail de l'histoire. TikTok, c'est la version améliorée de ce qui est déjà existant. Moi, j'aime bien aller sur TikTok, très sincèrement. J'y trouve des trucs bien. C'est toujours pareil, il faut dompter un peu l'algorithme, mais il est redoutable. Il est redoutable pour arriver à bien te profiler et faire en sorte ensuite de
te. On peut s'en servir comme un moteur de recherche. Hein. Si on part en voyage, on peut trouver des comptes qui nous disent bah, tiens, vous allez
trouver des très bons trucs pour
voilà les restaurants où il faut aller, voilà les hôtels. Non, mais moi, j'ai vu des choses sur TikTok aussi, des gens qui racontaient un peu leur voyage et qui disaient voilà, si vous aimez plutôt la rando, voilà, qu'est-ce qui est, vers où aller. Si vous aimez plutôt voilà la farniente, voilà où il faut aller sur des. Donc et d'ailleurs, les jeunes s'en servent beaucoup comme
20% de la tranche d'âge, on va dire jeune, on va dire 13-16, l'utilisent aujourd'hui et ne connaissent pas Google. Donc ça c'est intéressant de voir que c'est devenu effectivement un réflexe de type moteur de recherche. Donc oui, il y a un enjeu qui est derrière, un enjeu de part de marché, un enjeu, on va dire, stratégique pour les entreprises américaines qui jusqu'à présent avaient 100% du gâteau des réseaux sociaux, oui. Hormis Russie et Chine.
Et puis alors même si bon, Spotify n'est pas chinois, mais on peut imaginer que les Américains un jour se disent finalement... sous la pression d'un Amazon Music, d'un Apple Music, les Américains disent finalement Spotify, un peu pareil, on ne sait pas trop ce que deviennent les données. Enfin, ça pourrait créer un précédent. Et puis, en termes juridiques, je pense qu'il faudra voir aussi est-ce que tout ça est conforme à un droit national, international. Bon, je pense que Donald Trump saura bien trouver le bon juge ou la bonne juridiction.
Ce qui est très amusant, c'est qu'il devient président. Il avait dit qu'il sauverait TikTok, mais il devient président le lendemain de la décision de justice.
Allez, coïncidence, je ne crois pas.
Autre sujet avant de basculer dans la deuxième demi-heure de cette émission, c'est alors c'est Marc Grumman qui est toujours ce journaliste expert qui connaît bien, il a ses entrées chez Apple visiblement. Et là, il a parlé aujourd'hui alors pour la première fois, vous savez qu'on alors François il y croit, François Sorel il croit à fond un jour cet iPhone pliant. Alors pourquoi pas pour fêter les 10 ans, on sera en 2027. Mais en tout cas, là, on entend Apple qui parle d'un iPad pliant, donc pas un iPad, ils disent un appareil pliant qui aurait la taille, une fois déplié, de deux iPads. Et ce serait, donc ça aurait les allures d'un MacBook. En tout cas, c'est le nouveau projet d'Apple. Vous avez vu ça, Frédéric ?
Oui, j'ai regardé ça. Alors, j'étais un petit peu détaché parce que j'ai l'impression que Apple bégaye un tout petit peu en ce moment et qu'ils essayent de mettre des contre-feux après le Vision Pro qui marche pas des masses. L'iPhone 16, on sait que les ventes sont pas complètement au niveau auquel on les attendait. Là, ils sortent ça. Enfin, en tout cas, il y a une fuite un peu orchestrée, je pense, derrière ça. Pas oublier qu'aujourd'hui la partie téléphone portable pliable, c'est vraiment une micro-niche. On parle de 1,5%.
Mais il paraît que ceux qui choisissent ce type de téléphone, après ils peuvent plus s'en passer.
Ah ben si tu l'as déjà essayé, c'est vraiment bien. Ouais. Alors après, ils laissent Samsung avancer sur le chemin parce que ça leur permet de défricher. C'est assez malin. Apple n'est jamais forcément un leader. Ils aiment. Par contre, quand ils arrivent, ils ont bien screené les usages et ils voient bien comment arriver à faire le truc et c'est très bien fait. Le pliable, ils y viendront. Mais le problème principal du pliable, qui très souvent est revenu quand tu écoutes les Tim Cook les différents responsables techniques, c'est il y a une pliure au milieu et c'est vrai. Il y a une pliure au bout d'un moment sur l'écran, qui fait que l'écran s'abîme. Il y a une grosse charnière. Donc, leur enjeu, il est là. C'est de rendre ça beau, donc, design, pas avoir l'impression d'avoir deux appareils l'un sur l'autre en sandwich.
C'est technologique.
Ouais, moi, pour avoir essayé brièvement un Samsung, cette pliure, au début, elle est un peu gênante et c'est de pire en pire. Et en plus, l'écran, il est en plastique, forcément, pliable. Et donc, en fait, il se raye très, très facilement. Mais c'est contrairement à un iPhone. En fait, je pense que, et ça, c'est juste moi qui devine, mais le côté sympa de l'iPhone, c'est qu'il est extrêmement pur, presque inaltérable. Donc, moi, je vois un écran d'iPhone cassé, je meurs un petit peu à l'intérieur. le même rayé, c'est-à-dire que moi, mon collègue l'avait rayé en nettoyant sur sa chemise, il avait touché un bouton de la chemise et ça l'avait rayé, quoi. Il avait une énorme rayure le troisième jour de l'usage, juste en nettoyant sur sa chemise. Ça c'est insupportable dans la vision d'Apple que que ça devienne, enfin que ça s'abîme.
Ouais, donc il faudra vraiment qu'ils arrivent à cette
qualité.
Oui, pour
moi, il faudrait qu'ils fassent deux trucs en verre qui se joignent et tout. Ouais. Ça doit être super sioux.
Ils y arriveront.
Et puis surtout, il y a le côté fragilité induite. Enfin, je sais pas, quand je vois quelque chose de plié comme ça, j'ai dit ça va être fragile. Donc c'est pour ça que enfin aujourd'hui je reste sur mon argument de départ qui est que ça restera un marché de niche parce que il y a qu'une frange de la population qui sera prête à acheter. En fait, en plus on parle d'un device qui va coûter quand même 3 000 dollars.
Le Fold de Samsung, il est assez cher,
il est très cher. Exactement. Donc voilà, si on ajoute l'argument prix avec l'argument fragile
technologique, si tu te positionnes dans la logique de la clientèle Apple dont je fais partie, hein. Si tu pars sur l'idée d'avoir un grand appareil qui, quand tu l'agrandis, bah, il est encore plus grand et qui ressemble à une sorte de journal quelque part, on va dire un peu ça, hein, le fantasme du journal qu'on replie et qui ressemble à un MacBook super, super fin, tu auras des professionnels qui seront prêts à payer ça parce que, surtout si c'est un modèle Pro Max Plus, ils paieront ça parce qu'il y a l'image, il y a l'innovation et il y a le fait de se dire ça peut être très puissant et finalement ça prend une place minime. C'est pas idiot, le calcul est pas idiot, ils y viendront, mais je pense qu'ils vont avant tout essayer de répondre à des problématiques qui sont, comme tu le disais, pas possible pour eux, qui est que ça se raye, ça se coupe, etc. C'est impossible.
Moi, c'est quand même un questionnement sur l'usage de la chose. Et si c'est quelque chose de relativement gros et un petit peu épais, nécessairement, si c'est un truc de power user, si ça reste un iPad, je vois pas le marché. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'utilise pas d'iPad parce que je suis un utilisateur de Mac, de PC. J'ai besoin d'un clavier, j'ai besoin de raccourcis clavier. Je suis beaucoup plus rapide avec un ordinateur qu'avec une tablette. Et donc là, une tablette surpuissante avec un bel écran, pourquoi pas, ça me tenterait. Mais c'est une tablette avec toutes les limitations qui sont liées à ce type d'application.
Peut-être voir les usages qu'on aura derrière. En tout cas, Léa Benaïm, là, qui produit l'émission, me rappelait dans l'oreillette, là, c'était le Mate 3, X3 de Huawei. Je ne sais pas si vous l'avez eu. L'avait eu ici en plateau. Dépliait en 3.
En 3, oui.
En Z. Hein, donc, on le redéplie en 3 parties. C'est quand même assez impressionnant. Puis surtout, ils arrivaient à une finesse. Ouais. Magnifique, mais au bout de, tu sais, c'est comme les tiroirs dans les cuisines. Ce tiroir a fait 250 000 ouvertures. Regardez, il fonctionne toujours. Voilà, c'est ça, c'est ce côté marque. En tout cas, on va suivre ça. Mais c'est vrai, et je reviens vers ce que tu disais, Frédéric, au début de ce sujet-là. Oui, Apple a besoin de communiquer, de montrer qu'ils sont toujours en train de tâtonner, de chercher.
Surtout, Apple ne sortira un produit que s'il a un usage associé qui résout un vrai problème et pas uniquement une démonstration technologique. Même magnifique, hein, comme fait Samsung depuis des années, qui produit des écrans. Donc c'est un moyen de dire aussi qu'ils savent faire. Mais c'est plutôt la démonstration technologique. La question, c'est quel problème va répondre cet outil. Je ne sais pas.
Eh bien, on verra tout ça. Pas dans la deuxième demi-heure, parce qu'en deuxième demi-heure, on a beaucoup de sujets dont on veut encore vous parler. C'est le directeur général de SoftBank qui annonce un investissement de 100 milliards de dollars aux États-Unis. C'était il y a à peine quelques heures, il y a à peine une heure, on l'a vu à Mar-a-Lago, donc la résidence de Donald Trump, qui est pour l'instant la pré-Maison Blanche. Enfin, c'est un double de la Maison Blanche tant que ce sera aux alentours du 20 janvier où Donald Trump investira vraiment la Maison Blanche. On va revenir sur Elon Musk qui prépare un concurrent de Gmail, Xmail. Voilà, vous avez compris où ça va se trouver. Voilà, on a ces quelques sujets. Et puis Meta, oui, on avait un autre sujet. Meta qui demande au gouvernement de bloquer le passage au gouvernement américain d'OpenAI à une société à but non lucratif. Tiens, ça rappelle ce qu'Elon Musk demandait. Voilà, on va en parler de tout ça avec nos experts Frédéric Krebs, Damien Douani, Tristan Nito. C'est tout de suite sur BFM Business après une courte pause.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.